Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin.
Parole de femme.
Jacqueline Fainting, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci Nathalie, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous.
Alors, vous êtes administratrice des prisons et vous avez été nominée au prix des Nations Unies des pionnières du milieu pénitentiaire.
Oui, merci. C'est une reconnaissance de la part des missions de maintien de la paix pour les femmes pionnières dans le système pénitentiaire, dans le maintien de la paix. Ce prix nous a beaucoup motivés dans notre travail parce que travailler dans un milieu post-conflictuel qui n'est pas facile et dont la question de genre se pose, c'est pas aussi aisé de le faire. Mais avec le courage que nous avons, nous sommes parvenus à braver certaines réalités du milieu carcéral et des missions.
Alors, on va revenir justement sur la question du genre. Mais l'on sait que à l'heure où nous nous parlons, vous êtes à Gao, au Mali. Et vous travaillez au Mali et vous avez aussi travaillé au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez constaté vous-même sur les conditions de détention?
J'ai travaillé au Cameroun, j'ai travaillé en Haïti et présentement je suis au Mali. Bon, le Cameroun c'est mon pays d'origine, mais les deux autres pays c'est les missions de maintien de la paix. Effectivement, par rapport à la condition de détention, beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Au niveau de l'alimentation, par exemple, l'état a été un peu amélioré parce que les détenus ont au moins 2 repas par jour. La santé aussi a été améliorée parce que dans mon pays, je crois que en matière de santé, l'État a mis beaucoup de budget pour améliorer la santé. Moi, j'étais au ministère, je faisais des contrôles sur le terrain. La santé s'est beaucoup améliorée. Par exemple, au Mali, présentement, en matière de santé, il y a même eu un protocole, un accord entre le ministère de la Santé et le ministère de la Justice où les détenus sont vraiment pris en charge quand ils sont malades. Le problème, c'est au niveau de l'hébergement. Enfin, au niveau de l'hébergement, il y a beaucoup, la surpopulation carcérale, elle est là. Mais les efforts sont en train d'être faits parce que au Mali, récemment, il y a la prison de Kinyoroba qui a été inaugurée par le ministre de la Justice. Une très grande prison et qui vraiment répond aux standards internationaux. Et je pense qu'au Cameroun, il y en a aussi eu la prison de Goma, je crois qu'environ 5000 détenus, qui a été aussi inaugurée par le ministre de la Justice. Les efforts sont en train d'être faits dans ces pays en voie de développement.
Alors, quel type de détenus avez-vous au Mali et au Cameroun, si on peut revenir aussi sur le Cameroun?
Au Cameroun, on a, tout comme au Mali, la plupart des détenus, c'est les détenus de droit commun. Hein. C'est les détenus de droit commun, mais aujourd'hui, la donne a changé, vous savez, avec la réalité qu'on dit. Il y a des détenus aujourd'hui, détenus qui sont incarcérés pour des faits d'actes de terrorisme, de rébellion, de sécessionnistes, comme au Cameroun, on en a. Et au Mali, c'est le cas des détenus pour des causes, des faits terroristes.
Jacqueline Fainting, vous travaillez beaucoup sur la question de l'accès à la justice pour les détenus. Est-ce que les détenus ont facilement accès à la justice et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire?
L'accès à la justice, elle n'est pas aisée. Je vais prendre le cas du Mali, parce que là où je suis, par exemple, à Gao, les magistrats ne sont pas en permanence à Gao à cause de l'insécurité. Donc, il y a des moments où ils sont partis, les détenus ne sont pas suivis. Ça rend un peu l'accès à la justice difficile. Mais toutefois, nous avons eu à mettre sur pied une chaîne pénale pour pouvoir pallier à ces difficultés. Ce qui fait que même si les juges se déplacent, on parvient à travailler à distance avec eux. Ce qui fait, par exemple, les cas de liberté provisoire, les détenus qui sont en fin de peine, qui puissent sortir de la prison en attendant le jugement pour ceux qui demandent la liberté provisoire. Et au Cameroun aussi, il y a la lenteur judiciaire qui fait un peu problème. Il n'y a pas eu de réforme de la législation. Je crois que c'est ce qu'il faut mettre sur pied. Il faudrait bien que les textes d'application et de la réforme soient faits au niveau législatif parce que les textes ne sont pas très clairs et il y a par exemple, le personnel pénitentiaire joue son rôle juste au niveau de la prison, c'est qu'il faudrait un peu revoir la structuration des services. Parce que là-bas, le juge, quand il fait son travail, il s'arrête au niveau du tribunal, les responsables pénitentiaires s'arrêtent au niveau de la prison. Par contre, on n'a pas de juge d'application de peine. C'est dans les tests, mais il n'y a pas de juge d'application de peine nommé au Cameroun. Donc, ce qui fait que ça rend un peu le travail entre la justice et la prison très lente et ça rend un peu difficile. Et il y a les chaînes pénales aussi. J'avais initié un truc pour la création de chaînes pénales, mais malheureusement, je suis partie en mission depuis 3 ans et ça n'a plus fonctionné.
Parlons maintenant des femmes et des enfants, notamment de la violence basée sur le genre en milieu carcéral. Dans un premier temps, les femmes, les enfants, que ce soit au Mali ou au Cameroun, est-ce qu'ils sont bien séparés des hommes et pour les enfants, des adultes?
Au Cameroun, à la séparation catégorielle des détenus, les femmes sont dans leur quartier. Parce qu'il y avait une prison pour femmes au Cameroun, la prison de Fou. Mais aujourd'hui, elle n'est pas exclusivement féminine. Il y a des hommes, il y a des femmes. Parce que les femmes sont dans leur quartier, les hommes dans leur quartier, les mineurs, ainsi de suite. Pour moi, ce n'est pas la solution parce que la plupart des agents sont masculins. Il n'y a que quelques femmes. Le nombre n'est pas assez élevé pour prendre en charge exclusivement les femmes. Donc, il y a toujours cette violence basée sur le genre qui n'est plus physique, ça je le dis, mais même pas sexuelle parce que aujourd'hui les hommes n'ont pas accès dans le quartier des femmes. Mais au niveau des agents pénitentiaires aussi, à l'époque, il y en avait, mais je crois qu'ils ont été vraiment sanctionnés et certains même ont été révoqués de leur fonction. Et aujourd'hui, la violence, elle reste au niveau du traitement de la femme. Les femmes, par exemple, n'ont pas droit à des sorties comme les hommes. Elles n'ont pas droit à toutes les formations comme les hommes. Elles n'ont pas droit aux loisirs comme tous les hommes. Et on ne tient pas compte de la vulnérabilité des femmes, de leurs besoins personnels, physiologiques et tout. Donc, on leur applique les textes qu'on applique aux hommes, ce qui fait que pour moi, c'est une violence. Et pour les enfants, il y a des enfants aussi accompagnant leur mère. Je ne parle pas des mineurs incarcérés, des enfants accompagnant leur mère. Ils ne sont pas des détenus. Ils ne sont pas dans l'effectif de la prison. Ils sont là, ils accompagnent leur mère à l'intérieur de la prison. Mais quel est leur sort? Parce qu'ils ne sont pas pris en charge par l'administration pénitentiaire. C'est les parents qui doivent s'en occuper. Ça devient difficile parce que si la maman est déjà incarcérée et que généralement dans nos pays, les femmes sont abandonnées par leur famille quand elles sont en prison, elle trouve les moyens ou pour s'occuper de ses enfants. Ça devient très difficile.
Et en ce qui concerne donc les mineurs qui se retrouvent en prison, quelles sont les tranches d'âge? Est-ce qu'il y a des prisons pour mineurs? Est-ce qu'il y a des lieux où, selon vous, il serait préférable que ces enfants se retrouvent plutôt qu'en milieu carcéral tel qu'il existe aujourd'hui?
Absolument. Oui, absolument. Moi, mon souhait, c'est de créer des centres de rééducation des mineurs en conflit avec la loi dans tous ces pays. Mmh. Parce que je crois qu'ici, au Mali, il y a un seul centre de rééducation pour mineurs en conflit avec la loi, ce qui est très insignifiant pour un pays aussi vaste que le Mali. Donc, vous pensez qu'un enfant mineur qui a été poursuivi à Gao ne peut pas être transféré à 2000 kilomètres de ses parents. Donc, un seul centre ne suffit pas, il faudrait multiplier. Bon, c'est déjà quelque chose, mais il faudrait multiplier. Et là, moi, je dis, il ne faudrait pas qu'on condamne ces enfants. Mon souhait serait qu'on mette ces enfants dans ce centre de rééducation, mais c'est pour les rééduquer. Parce que quand on les condamne, un enfant de moins de 18 ans, quand vous le condamnez, par exemple, et qu'après peut-être 2 ou 3 ans, il est sorti, et qu'il a un casier judiciaire déjà, c'est un gâchis. Autant les mettre en place, ces centres de réinsertion, les former, les rééduquer, et les remettre dans la société pour qu'ils puissent rebondir. Bon, au Cameroun, par exemple, il n'y a pas de centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi. Dans chaque prison, il y a un quartier pour mineurs. On est encore très en retard sur ce plan parce que pour moi, il faudrait créer des centres de rééducation pour mineurs en conflit avec la loi. Donc, les personnels qui sont affectés dans ces centres, ça doit être des éducateurs spécialisés, des psychologues, des travailleurs sociaux qui rééduquent l'enfant. Ces éducateurs doivent se baser essentiellement sur l'éducation des enfants. Or, dans nos prisons, on n'en a pas. C'est un défi à relever.
Thank you. Jacqueline Feinting. Au niveau de la réinsertion, vous avez dit un mot également. Effectivement, on parle de réinsertion peut-être professionnelle hein, pour des adolescents, réinsertion à l'école. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Est-ce que quelque chose est fait à ce niveau-là, encore une fois, dans les pays que vous connaissez, donc le Mali et le Cameroun?
Oui, effectivement, par rapport à la réinsertion, quelque chose est fait, mais c'est très minime. Déjà, il y a le processus de réinsertion qui est très mal compris. Et déjà, il n'y avait pas de politique de réinsertion en tant que telle. Les projets de réinsertion, c'est des formations professionnelles, des petits métiers. Par exemple, moi, j'ai essayé de faire, j'ai fait un projet pilote dans mon pays en réinsertion. Tout un processus, c'est un très long processus qui coûte tellement cher. Et quand l'État subventionne ça, il a des grincements des dents. Mais le résultat est là. Et là, il faut donc définir bien la politique de réinsertion sociale des détenus selon les catégories. Selon les catégories, les femmes, une politique de réinsertion des femmes, une politique de réinsertion des hommes et des mineurs. Maintenant, ce qui sont faits, il y a des détenus qui se sont même amendés, j'en connais, qui se sont amendés, qui m'ont dit personnellement, vraiment, Madame Jacqueline, nous, on ne va plus jamais voler parce qu'on sait comment on peut chercher de l'argent. C'est des gens en plus. Moi, je pense que c'était le début de demandement. Là, il était encore en prison. Il n'a pas fini la formation. Il y a des cas, des projets qui sont montés, mais ce n'est pas suffisant parce que le processus n'est pas suivi de bout en bout. Ce qui fait que les détenus sortent et ils retombent encore dans la récidive. Or, pour moi, la réinsertion, c'est la clé du succès de l'administration pénitentiaire où on devait mettre tout le paquet parce qu'elle garantit la sécurité de la prison et de la sécurité publique parce que ces détenus ne vont plus récidiver et en plus elle garantit la paix et la durabilité du projet dans la société.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
Jacqueline Feinting. Alors, dans la réinsertion, on sait qu'il y a probablement des enfants, voire des adultes, hein, qui sont analphabètes, parce que là, on parle donc de détenus qui, à un moment donné, seront libérés. Et comme vous venez de le dire, l'objectif, c'est qu'ils ne recommencent pas leur forfait. Donc, est-ce qu'il y a des formations, ou en tout cas, est-ce que c'est en projet, ne serait-ce que pour certains enfants, qu'ils puissent retourner à l'école, en tout cas, qu'ils soient alphabétisés?
Ceux qui sont en bas âge, à partir de 14 ans, par exemple, jusqu'à 18 ans, on leur impose l'éducation d'abord, l'alphabétisation, c'est ce qu'il faut d'abord faire à l'enfant avant de lui donner une formation professionnelle. On l'éduque. Pour moi, la formation professionnelle, c'est d'abord la réinsertion sociale. Il faut d'abord la rééducation de l'enfant. On le rééduque avant de lui faire la formation. Et on a un projet d'alphabétisation à la prison de Gao parce que beaucoup sont analphabètes quand ils arrivent. Donc, on est en train de faire la formation continue jusqu'aujourd'hui. Et beaucoup savent déjà écrire et lire. Et ce même projet, je l'ai fait en Haïti, où beaucoup de femmes entraient, elles ne savaient ni lire ni écrire. Mais avant, par exemple, la fin de ma mission, elles savaient écrire des lettres à leur famille pour leur dire comment elles se portaient. Et elles étaient tellement heureuses.
Quel type de réforme, en plus de celle que vous avez évoquée donc précédemment, quel type de réforme du système pénitentiaire serait vraiment importante et urgente selon vous et quelles réformes sont en cours dans les pays que vous connaissez?
Les principales réformes qu'il faut, c'est d'abord la réforme des textes. Parce que moi, je dis, quand on a des textes, on les applique mieux. Or, si on n'a pas de textes, on ne sait même pas à quel sens se voit, on navigue à vue. Il faut d'abord la réforme législative, la réforme des lois pénitentiaires. Il y a maintenant la réforme des ressources humaines, la formation du personnel, elle est primordiale. De par mon expérience, parce que moi je suis à 18 ans, 19 ans bientôt, du travail pénitentiaire, la formation du personnel, elle est essentielle. Et la formation du personnel, j'insiste, sur certains thèmes bien précis, le programme doit être bien défini. Mais il faudrait aussi que la formation du personnel qui va s'occuper des femmes ou des enfants soit spécialisée. Parce que c'est des catégories différentes. Vous allez trouver dans tous ces pays, le personnel qui gère les femmes, les enfants, c'est le même personnel qu'on a formé pour tous les détenus. Donc, on leur a donné seulement des textes sur les détenus en général. Ce qui fait que ça rend le travail très difficile et le travail n'avance pas. Il y a aussi les réformes infrastructurelles, il faut le faire. La réforme législative, moi, je voudrais qu'elle introduise les recours à des peines de substitution à l'incarcération parce que la justice répressive n'est pas la solution. Il faut une justice réparatrice. C'est-à-dire que c'est plus facile comme ça que de mettre tout le monde au mandat de dépôt plein de temps. Parfois, c'est des gens qui sont même innocents, dont la justice et l'instruction n'est pas bien faite, ou bien elle est trop lente, ce qui fait que ça. Il y a beaucoup d'abus pour le droit de l'homme. Qu'on améliore la conception organisationnelle des procédures de gestion des prisons. Moi, je souhaiterais aussi qu'il y ait l'amélioration des mécanismes de coordination entre les différents organismes de la chaîne pénale, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, la juridiction elle-même et l'administration pénitentiaire, comme ce qu'on faisons ici à Gao, ce qui n'est pas encore général, c'est juste au niveau de Gao, mais il faudrait que ça s'étende sur tout le pays et que le ministère de la Justice prenne des textes réglementants. Il y a aussi la réforme qui vise à améliorer la garantie judiciaire dont bénéficient les prisonniers et la formation du personnel. Moi, j'insiste sur ça.
Jacqueline Feinting, est-ce que selon vous, il faudrait qu'il y ait plus de femmes qui travaillent en tant que personnel dans les prisons elles-mêmes?
Oui, pour les prisons, je voudrais qu'on crée des prisons des femmes. Par exemple, je prends le cas du Cameroun, on a 10 régions. Que dans chaque région, qu'il y ait une prison de femmes, même si ce n'est pas dans chaque département, une prison pour femmes où le personnel, la majorité du personnel est féminin. Parce que le personnel masculin peut travailler dans les alentours, le Mirador et tout. Mais en ce qui concerne le contact direct avec les femmes, que ce soit des personnels féminins, et même pour les enfants, pour les mineurs, ou bien les enfants accompagnant leur mère, soit des personnels féminins. Parce que moi, je pense que la femme est plus douée à travailler avec ces catégories de personnes que les hommes. Et je voudrais aussi que dans chaque chef-lieu de région, qu'on crée aussi un centre de rééducation pour mineurs. Je suis sûre. Avec ces réformes et leur mise en œuvre, beaucoup de choses vont changer en ce qui concerne la criminalité.
Jacqueline Feinting, parlons un petit peu de vous maintenant. Ce sont beaucoup d'hommes qui pratiquent ce type de métier, le milieu carcéral. Est-ce que vous-même, vous avez été victime justement vous-même de harcèlement, en tout cas d'intimidation, de sexisme, de machisme au sein même de votre métier?
Comment je te dis, le premier stéréotype dont j'ai fait face, j'étais encore à l'école de formation. Comme vous le dites, c'est un métier où c'est plus des hommes qui le font, surtout au niveau des officiers supérieurs. Alors la première question qu'on m'a posée, mais toi tu t'es trompé de route? Je dis pourquoi? Je ne me suis pas trompé de route. J'ai choisi ce métier, je vais le faire. Tu ne vas pas t'en sortir, c'est un métier difficile, c'est le métier des hommes, c'est le métier où on a face aux bandits et tout et tout. Je leur ai dit oui, puis on fera face aux bandits, mais je vais m'en sortir. Là, c'était encore à l'école et j'étais la seule femme chef de section à l'école parce qu'on a une formation militaire. J'avais 60 éléments, dont 55 hommes et 4 femmes, plus moi, ça faisait 5. Quand on vous donne un poste de responsabilité et que vous devez gérer les hommes, c'était pas du tout facile. Même en matière de sécurité, je crois qu'on m'a confié ce poste de chef de service de l'exécution des peines, de la réinsertion des détenus et de la sécurité de toutes les prisons du Cameroun. C'était en 2010. C'était pas du tout facile. Mais avec la volonté, l'engouement, le management que je menais, je parvenais à faire le travail. Je descendais dans toutes les prisons. Je faisais ce qu'il fallait faire. Les gens pensent que sécurité, ça veut dire homme. Non, je leur ai dit sécurité ne veut pas dire homme. Sécurité, c'est savoir-faire.
Écoutez Le Monde au Féminin sur VOA Afrique. Jacqueline Feinting, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent pratiquer ce métier, travailler dans le milieu carcéral? Et sinon, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que vous-même vous pratiquez des formations? Et surtout, qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que vous faites pour attirer les jeunes femmes?
Pour attirer les jeunes femmes, Nathalie, je suis fière de cette question parce que en 2020, j'étais arrivée à Gao en 2019. Je me suis rendu compte qu'il y avait une seule femme à la prison et qui, après, a eu un poste quelque part, elle est partie. Il n'y en avait pas de personnel féminin à la prison. J'ai initié un projet de sensibilisation des femmes pénitentiaires à Gao, effectivement en mars 2020. Une des femmes en uniforme, parce qu'on a, à la fin, on s'est rendu qu'on n'y avait pas assez de femmes pénitentiaires. On a ajouté la police et les femmes militaires qui étaient sur place. Donc, c'était pour amener les femmes pénitentiaires des autres régions qu'on a fait venir à Gao. Elles sont venues, on a fait des sensibilisations, des formations sur le milieu carcéral pour leur dire à Gao, voilà comment on peut fonctionner, comment on peut travailler, comment on peut vivre tranquillement et ainsi de suite. Ça a été un grand succès. Et par rapport aux jeunes, à Gao, quand le personnel arrive, c'est les stagiaires, ils ne sont pas bien formés. Depuis 2019, j'ai fait plus d'une quarantaine de formations à l'intention du personnel pénitentiaire en matière de gestion des prisons, de sécurité, de droits de l'homme, gestion des catégories vulnérables. On a fait tellement de formations, mais ça ne suffit pas parce qu'on n'a pas toujours assez de personnel. À Gao, aujourd'hui, on est à 20 personnels pour 200 détenus, ce qui est très réduit. Ce qu'on peut dire aux jeunes, les jeunes veulent bien ce corps parce qu'ils ne connaissaient pas effectivement quel travail on fait. C'est de faire des journées portes ouvertes. L'administration pénitentiaire devrait ouvrir ses portes, faire des sensibilisations au niveau de la population, leur dire. C'est un métier comme tous les autres. Hein. C'est un très bon métier d'ailleurs. C'est un métier très noble parce que quand vous sentez que vous, la vie des gens dépend de vous et que vous devez tout faire pour les mettre à l'aise, je crois que c'est un très bon métier et que les jeunes devraient vraiment embrasser. Moi, je suis très fière de ce métier aujourd'hui. Pourtant, quand j'entrais, je connaissais pas très bien le métier. Je savais juste que je devais défendre les droits des détenus. Voilà ce qui m'a motivée à présenter ce concours. Et j'ai été admise. Et aujourd'hui, c'est mon cheval de bataille, le droit des détenus.
Votre plus grande satisfaction dans le travail accompli, Jacqueline Feintig?
Ma plus grande satisfaction, je dis toujours, c'est quand j'ai pu me battre contre vents et marées en 2015, quand j'arrivais en Haïti. Il y avait le plus jeune détenu, c'était le plus ancien, mais le plus jeune en âge, parce qu'il avait 22 ans après avoir passé 6 ans de détention préventive en prison, et dont on ne connaissait où se trouvait son dossier au niveau de la justice, parce que les principaux accusés étaient décédés tous à la prison et le dossier était classé au niveau de la juridiction, on ne savait où. Avec ma section et la section des affaires judiciaires, je me suis battue pour demander à la juridiction de retrouver son dossier. On a retrouvé le dossier, on a libéré le jeune. Ce jeune a été avec la section de lutte contre les violences communautaires qui a pris le garçon, l'ont formé pendant un an en soudure et ajustage et le garçon a été installé. Je crois que c'est ma plus grande fierté. Et aujourd'hui, ce garçon est toujours au Cap Haïtien. Il mène ses activités normalement et c'est lui qui fait aujourd'hui des sensibilisations dans les prisons, me dit-on. C'est lui qui vient sensibiliser les autres à la prison pour leur dire la vie n'est pas finie quand on est en prison. On peut se relancer parce que lui, le voici aujourd'hui, il est aujourd'hui père de famille, il a un atelier et il vit tranquillement.
Donc aujourd'hui, on a encore beaucoup de gens, de jeunes qui sont en prison pendant de longues années sans avoir été jugés.
Oui, oui, il y en a, ils passent 3, 4, 5 ans. Ici à Garo, je crois, il y a des gens qui font 4 ans. Parce que ici aussi, le problème, c'est que la cour d'appel, par exemple, elle est à Mopti. Il n'y a pas de cour d'appel à Gao. Donc, les détenus qui doivent aller à l'assise là-bas, les conditions de transport ne sont pas faciles. Comme c'est pour les faits criminels, ils doivent être jugés là-bas.
Jacqueline Feintig, je rappelle que vous êtes camerounaise et que vous avez été nominée au prix des Nations Unies des pionnières du milieu pénitentiaire. Vous pouvez nous citer ce prix?
The Ted Reserve Award for Justice and Correction.
On vous dit à très bientôt.
Merci Nathalie.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact, bon courage et à très bientôt.
Arrête !